Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue, l'actualité économique du jour. Est-ce qu'il faut réformer l'assurance chômage ?
Parce que c'est pas vraiment. C'est plutôt cyclique que contracyclique en ce moment. Et donc, j'ai autour de moi un invité qui a défendu notamment l'idée de réformer l'assurance chômage malgré le retournement du marché de l'emploi dans les colonnes de l'Opinion tout récemment. Je poserai d'ailleurs des questions, faut-il conditionner l'accès aux aides sociales ? Est-ce que quand on parle de droits et devoirs, c'est quelque chose qui tient la route ou est-ce que tout simplement, ça n'est pas le cas ? Éradiquons la grande pauvreté. C'est une des questions posées par le numéro de mars d'Alternatives économiques et la réponse est disponible en page 38 et 39. Je vous donnerai les principaux éléments et on en débattra. On fera le bilan du plafond des indemnités de licenciement. C'était ce qu'on appelait le barème Macron, souvenez-vous, en 2017, pour imposer un plafond lors des licenciements sans cause réelle et sérieuse. C'était destiné à lever la fameuse peur d'embaucher des chefs d'entreprise. Un bilan a été établi donc quelques années après. On parlera aussi du télétravail. Il y a un cadre sur deux qui dit que c'est un acquis, le télétravail. Voilà. C'est ce qui ressort d'une étude qui a été publiée par l'APEC. Enfin non, ils sont majoritaires à considérer que c'est un acquis, et un sur deux est prêt à démissionner si on remet en cause le travail à distance dans son entreprise. Bonjour Anne-Sophie Alsif.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes chef économiste du cabinet d'audit BDO France et également chroniqueuse une fois par mois dans le magazine Forbes. Et il y a autre chose, je crois, dans votre pédigree que j'ai oublié.
Non, pas Paris 1 aussi.
Voilà, Paris 1 Panthéon. Je l'avais écrit, mais je me suis dit, mince, j'ai pas vérifié si c'était bien ça. Paris 1 Panthéon Sorbonne. Ils tiennent beaucoup à ce qu'on donne la vraie appellation.
Tout à fait.
Parce qu'en fait, Sorbonne, c'est une marque, vous en avez partout, et donc Paris 1 Panthéon Sorbonne. Stéphane Carcillo, bienvenue.
Bonjour.
Pour le Cercle des économistes, vous êtes responsable de la division revenu-travail de l'OCDE. C'est vous qui avez fait un rapport avec Pierre Cahuc sur le barème Macron.
Oui.
Bon, d'après ce que j'ai cru comprendre, mais vous me direz, c'est un peu décevant. Ça nous avait été présenté comme la grande mesure, souvenez-vous. Et le bilan, vous nous le ferez. Bonjour Christian Chavagneux.
Bonjour.
Bienvenue, éditorialiste à alternativeséconomiques.fr. Vous avez publié les plus belles histoires de l'escroquerie, du collier de la reine à l'affaire Madoff au seuil. Surveiller et punir les pauvres, c'est la une du numéro de mars. Vous, votre idée, enfin, j'ai regardé ce dossier, votre idée, c'est que toutes les mesures qu'on prend en matière d'économie et de dépenses sociales, les premières victimes sont les plus démunies.
Et il faudrait pas grand-chose pour les sortir de la grande pauvreté, en fait.
Oui, alors ça c'est un autre aspect, parce que c'est vrai que quand on voit ce qui a été décidé récemment, si vous mettez un reste à charge de 100 euros sur le compte personnel de formation, bah, c'est celui pour qui 100 euros c'est un peu beaucoup d'argent qui vont s'ouvrir en premier. Ça c'est à peu près certain. Bon, on évoquera de toute façon ce sujet tout à l'heure. Vous dites qu'il faut réformer l'assurance chômage. Le gouvernement, Stéphane Carcillo, avait dit pas de politique, il faut des politiques contracycliques. Et là, c'est exactement l'inverse qu'on est en train de faire. On a fait deux réformes de l'assurance chômage, on s'apprête probablement à recommencer. Et récemment, vous avez considéré que oui, il fallait effectivement multiplier les incitations au retour à l'emploi.
Alors pourquoi ? D'abord parce que le marché du travail reste extrêmement tendu. C'est un peu...
Les problèmes de recrutement sont toujours là.
Les problèmes de recrutement sont toujours là. On a effectivement l'économie a fortement ralenti. On ne peut pas dire qu'elle soit véritablement retournée, mais on est sur un régime vraiment de croissance faible en ce moment, sous l'effet tout simplement des taux d'intérêt qui sont très élevés. Mais le marché du travail résiste. Il résiste incroyablement.
On a vu les chiffres européen quatrième trimestre 2023, impressionnant. Hein.
Voilà. Le taux de chômage reste très très bas, donc on reste dans un régime de taux de chômage très bas.
Pardon, 7,5% de taux de chômage, c'est très bas ?
Pour la France, oui, c'est très bas. Pour la France,
rapport,
ça fait
par rapport au long terme sur la France.
Oui, par rapport à l'Allemagne.
C'est pas le plein emploi.
Dans le reste de l'Europe.
Par rapport au 18e siècle aussi, mais bon, est-ce que c'est la bonne référence ?
Non, mais dans les autres pays, on est effectivement dans des taux de chômage qui sont plus bas, mais pour la France, ça correspond grosso modo à notre taux de chômage structurel. Entre 7 et 7,5%. Et donc, on est dans un régime où les recruteurs ont énormément de mal à trouver de la main-d'œuvre. Et dans ce contexte, on peut continuer à renforcer les incitations au retour à l'emploi. La France reste le pays dans lequel la durée maximale des allocations est très élevée, même avec les 18 mois. On ouvre les droits à 6 mois de travail, ce qui est extrêmement tôt. Et surtout, on atteint le maximum ultra rapidement. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays, pour atteindre 18 mois ou 24 mois, il faut avoir travaillé beaucoup plus que 18 mois ou 24 mois, il faut avoir travaillé 4 ans, 6 ans, aux Pays-Bas, 30 ans, toute une carrière. En France, on l'atteint très 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 vite. Donc on ouvre des droits très vite, ces droits sont relativement longs. Tout ça, c'est très très bien quand le chômage est fort, que les entreprises ne crée pas d'emploi, que il n'y a pas beaucoup, que le marché du travail n'est pas du tout tendu, que les vacances d'emploi ne sont pas là. Donc là, évidemment, c'est très bien d'avoir un régime très protecteur et on peut même aller plus loin. D'ailleurs, c'est ce qui est prévu dans le système d'assurance chômage.
Oui, on rallonge si on arrive à 9% voilà. De chômage ou s'il y a une déformation, je crois, de 0,6 du taux de chômage sur voilà. 3 mois.
Mais dans le régime dans lequel on est actuellement, avec les tensions du marché du travail qu'on a, on peut effectivement aller plus loin dans ce domaine, dans les incitations, surtout au moment où on se demande comment est-ce qu'on va faire repartir la baisse du chômage dans les mois qui viennent. Eh bien, il y a des marges de manœuvre. Les marges de manœuvre sont surtout effectivement à très court terme incitatives. Et s'il y a un élément sur lequel on peut jouer, c'est celui-là.
L'élément, enfin aller plus loin, ça veut dire réduire encore la durée d'indemnisation, si je comprends bien.
La durée ou la durée minimale de cotisation à partir de laquelle on ouvre des droits.
Ça, les éléments qu'on a commencé d'ailleurs à toucher dans les précédentes réformes. Donc, réaction, Anne-Sophie Alsif et Christian Chavagneux à cette vision des choses.
C'est vrai qu'on est dans une situation où on peut dire que malgré le ralentissement économique, l'emploi tient, même si, attention, hein, pour cette année, on va quand même avoir une augmentation du taux de chômage. On va se rapprocher normalement des 8% hein, dans les prévisions. Donc, voilà, on n'est plus au 7,2 qu'on a pu connaître. Donc, il y a quand même un infléchissement parce qu'on a ce ralentissement de la croissance. Deuxième élément, ce qu'il faut regarder, c'est pas en effet le chômage, c'est qui au chômage. Et en France, quand on regarde qui l'est, vous avez raison, hein, là aujourd'hui, il y a des pénuries dans beaucoup d'entreprises, on compte 400, ça peut être jusqu'à 400 000 dans les secteurs marchands où il y a des besoins, mais on voit que cette population, c'est une population en général qui est très mobile, qui peut changer rapidement d'emploi, qui en effet, il y a une forte demande, donc qui est dans une situation vraiment de plein emploi et n'a pas aucune difficulté, et c'est cette population en créant plus d'incitations de retour. Je ne suis pas sûre que ça ait un effet macroéconomique, en tout cas sur le taux de chômage, élevé. Par contre, les deux segments, c'est-à-dire les moins de 25 ans sans qualification et les plus de 55 ans qui sont au chômage, c'est là, à mon sens, où il faut concentrer l'effort. Et dans ces deux cas, les moins de 25 ans qui n'ont aucune qualification, on a l'apprentissage, on a des politiques. Et là, en effet, il faudrait mettre, à mon sens, l'effort pour qu'ils retournent.
Ou ça, on d'avoir, en a pas mal déjà.
Hein. On en a déjà pas
fort
mal.
Fort et lourd.
Mais, mais vraiment qu'on ait plus de 150 personnes jeunes qui sortent sans aucune qualification chaque année du système. Donc ça, il y a vraiment un effort à faire. Et puis surtout, les plus 55 ans souvent veulent travailler, mais alors qu'ils envoient des CV et qu'ils veulent travailler autre, ne trouvent pas d'emploi.
Donc vous pouvez créer toutes
les incitations rallonger, ou c'est pas pour ça que le taux de chômage des seniors va s'effondrer. Alors bien sûr, il y a l'augmentation de l'âge de départ à la retraite, on voit qu'il y a un impact, hein, puisqu'en général, quand vous voulez avoir des mesures de pré-retraite, vous décalez l'âge, c'est ce que aussi le gouvernement voulait faire, et bien vous avez tout de suite une augmentation sur le taux d'emploi. Mais dans le cas de la France, plus 25 ans, moins de 55 ans par rapport aux autres pays dont vous parlez, où il n'y a pas ce phénomène-là, à mon sens, ces mesures n'auront pas l'impact espéré pour arriver au plein emploi, au fameux...
Écoutez, l'étude de la DARES là, montre quand même que les premiers effets de la réforme qui a quand même commencé à augmenter la durée minimale de cotisation et raccourcir la durée, a eu un effet important sur le taux de retour à l'acceptation des contrats. Donc, je veux dire, les éléments incitatifs existent et ils marchent. Je veux dire, on a des dizaines d'évaluations empiriques sur l'effet des incitations sur l'assurance chômage. Ça a des effets forts sur les comportements.
Pas forcément sur les comportements, parce que par exemple pour les retraites, ce qu'on voit, c'est que actuellement vous étiez à 64 ans, donc à 60-61, où vous avez un plan pour aller jusqu'à votre retraite et vous vous mettez en pré-retraite. Là, en effet, quand vous augmentez 2 ou 3 ans, bah, forcément toute la stratégie pour aller à cette pré-retraite augmente, puisque vous aurez vos droits plus tard. Mais c'est pas forcément un problème de comportement de gens qui ne veulent plus travailler ou qui se disent, en tout cas quand vous avez plus de 55 ans et que vous cherchez un emploi, eh bien tout d'un coup j'arrête de chercher parce que voilà, j'ai...
Mais là, je parle pas des seniors, je parle essentiellement de la masse. Les seniors, c'est il y a très peu de seniors au chômage. Quand ils tombent au chômage, le taux de chômage des seniors, c'est 5%. Le taux de chômage de la population, c'est 7,5%. Les seniors, effectivement, quand ils tombent au chômage, ont un chômage de longue durée, et c'est un problème. Mais l'essentiel du problème du chômage, ce ne sont pas les seniors. C'est surtout des personnes qui sont relativement peu qualifiées, des personnes qui sont relativement jeunes, et donc, comme vous l'avez dit, sont relativement mobiles. Donc le sujet, c'est pas le sujet essentiel, c'est pas le sujet des seniors, là.
Je vous donne la parole.
Christian Chavagneux.
Merci.
Allez-y, parce que vous êtes d'une discrétion. Donc, j'ai bien entendu.
Il y a un bon débat.
J'ai bien entendu les points de vue. On pourra parler du CDI senior qui a été proposé par les partenaires sociaux, si vous voulez. Parce que,
7,5%, 8% de taux de chômage, on n'est pas au plein emploi.
Non.
J'ai pas dit qu'on était au plein emploi. J'ai dit qu'on était au taux de chômage. C'est le taux de chômage structurel français. C'est pas un taux de chômage qui correspond au plein emploi. C'est 7%.
C'est pas le taux de chômage
structurel. Dans toutes les estimations, c'est entre 7 et 7,5. Donc,
les estimations de taux de chômage structurel qui sont dues à des estimations de la croissance potentielle, tout ça, dont on sait très bien que même les économistes, même Angus Deaton nous a dit cette semaine que c'était un peu n'importe quoi. Donc, ce taux de chômage structurel, non. Quand on est à 4-5% de taux de chômage, voilà, on se rapproche de plein emploi. À 7,5-8%, on n'est pas sur une tension du marché du travail. Bon, et l'idée de dire...
Laissez-le terminer.
Mais Christian, les tensions existent. Elles sont toutes les statistiques en ce moment. Les tensions du marché du travail sont extrêmement importantes.
Laissez-le terminer, Stéphane.
Il y a des secteurs sur lesquels il y a des tensions et des secteurs sur lesquels il y a moins de tensions. Donc oui, il y a des secteurs sur lesquels
On ne peut rien dire. Il n'y en a pas de tension, il y a moins de tension. Tout ça ne veut rien dire. Il y a des statistiques sur les tensions du marché du travail qui sont extrêmement tendues. Donc vraiment.
Laissez-le terminer quand même. Allez-y, Christian Chavagneux.
J'ai l'impression d'être avec Philippe Aguillon, on ne peut pas en placer une. Mais pourtant, c'est Stéphane Carcillo. Il y a un petit frottement là, entre les deux. Non, il n'y a que 5% des seniors qui sont au chômage. Pourquoi ? Parce que le reste, ils sont au RSA, parce qu'ils dépendent de leur conjoint, parce qu'ils n'ont plus de revenus. Donc le taux d'emploi des seniors est très largement inférieur. Je suis bon sur les stats là. Le taux d'emploi des seniors est très largement inférieur à ce qu'il est dans les autres pays. Donc il y a un vrai problème sur les seniors. Cette idée de, il faut inciter les gens à retourner sur le marché du travail, ça veut dire qu'ils sont incités, compte tenu de la protection aujourd'hui, à rester sur leur canapé à regarder des séries Netflix. Non, je pense pas que les gens qui n'ont pas de boulot aujourd'hui sont désincités de retourner sur le marché du travail. On connaît bien Cahuc Carcillo, ça fait des années qu'ils nous disent que la protection sociale est trop élevée dans ce pays, notamment la protection
sociale
des chômeurs est trop élevée. Et donc, on va encore aller un petit peu plus loin pour faire encore plus de pauvres. Écoutez, on va aller sur les seniors encore un peu plus loin.
Vraiment, c'est un discours très politique. C'est pas du tout un discours.
Alors que vous avez un discours pas politique du tout.
Non, pas du tout.
Expert économique.
C'est un discours très politique. Les évaluations empiriques sont très claires sur les incitations au retour à l'emploi, sur la sensibilité des comportements aux incitations financières. Après, on peut avoir un discours très politique, mais le niveau est vraiment. Enfin, c'est pas là que se situe le débat là. Enfin, moi, je m'attends à avoir une discussion qui est un peu plus élevé en termes d'évaluation.
Je m'excuse d'être en dessous de votre niveau, monsieur le professeur.
Là vraiment, les évaluations sont très très claires dans ce domaine-là. On peut toujours prendre un exemple dans la rue, ici ou là, et voilà, les évaluations sont très claires. Les demandeurs d'emploi réagissent fortement aux incitations de retour à l'emploi.
Après, peut-être qu'on peut dire...
Évidemment, ils ne vont pas réagir lorsque le marché du travail va mal. Actuellement, le marché du travail est extrêmement tendu. Il y a énormément d'offres qui ne trouvent pas preneur. C'est une situation dans laquelle on peut renforcer les incitations au retour à l'emploi.
Peut-être qu'on peut dire, je ne serais pas d'accord, mais c'est vrai que sur les incitations, il y en a, il n'y a pas de débat là-dessus, il y a des évaluations, mais par exemple, la réforme des retraites était sûrement plus efficace que la réforme de l'assurance chômage. Et juste la difficulté, c'est que...
Pour le taux d'emploi des plus âgés.
Exactement.
Ouais. Ah bon, donc, en théorie, oui, voilà. c'est un casier effet mécanique.
On peut faire des évaluations, il y a des réformes qui marchent plus que d'autres. Et juste pour l'assurance chômage, moi, mon propos, c'est juste de dire que oui, ça crée des incitations, mais que ce n'est pas avec ça qu'on ira au plein emploi, qui est quand même normalement l'objectif du gouvernement, de retourner aux 5%. Donc ça peut en créer, mais à mon sens, on ne règle pas le problème de fond, qui est vraiment le problème d'employabilité des seniors et des jeunes qui partent sans qualification. Voilà.
Ça ne règle pas le problème des jeunes. C'est intéressant le débat sur le plein emploi, en fait, Christian Chavagneux, parce que quand on regarde le taux de chômage français, qu'on l'appelle structurel ou pas structurel, ça fait combien de dizaines d'années qu'il est à 7 au plus bas ? Au moins 20 ou 25 ans. Je me trompe ?
Début des années 2000, ouais.
Je crois qu'on est tombé à la fin du mandat Sarko à 6-9, si ma mémoire est bonne, mais sinon on a toujours été à 7. Quand on est à 7 depuis 25 ans, c'est un peu structurel.
Au début des années 2000, on n'était pas loin de 5. Les questions, rappelez-vous, Nicolas, il y a 25 ans, on se disait, mais le plein emploi, c'est pour quand ?
Oui, mais début des années 2000, on n'était pas à 5%.
On n'est jamais descendu en dessous de 7.
Depuis les années 1980, je crois, ou 1978.
Un autre élément, j'avance, mais bon, j'ai entendu vos arguments, et effectivement, la question peut-être des jeunes et des plus âgés, elle n'est peut-être pas forcément réglée, mais bon, d'après ce que me dit Stéphane dans sa vision des choses, c'est une vision plus globale des demandeurs d'emploi. Stéphane Carcillo, on est en train de durcir un peu aussi autre chose, c'est les conditions conditions pour accéder à certains dispositifs RSA, désormais il va falloir travailler, ça va être généralisé au début de l'année 2025. L'histoire de la logique des droits et des devoirs, c'est une bonne logique?
C'est une logique qui est appliquée dans les pays nordiques, très fortement, qui sont des pays extrêmement protecteurs aussi, dans lesquels les dispositifs de protection sociale et notamment de lutte contre la pauvreté sont très efficaces. Donc il y a pas de raison de pas l'appliquer chez nous. Je veux dire, la lutte contre la pauvreté, elle est multifacette, parce que la pauvreté, c'est à la fois un problème monétaire, d'absence de travail, d'absence d'un nombre suffisant d'heures travaillées. C'est aussi, et donc dans ce cas-là, il faut effectivement inciter au maximum soit à se former, soit à faire un certain nombre d'activités qui peuvent améliorer l'employabilité et à développer tous les efforts qui permettent un retour plus rapide sur l'emploi ou d'augmenter le nombre d'heures travaillées. Ça, c'est la première chose. Après, ça suffit pas, parce que la pauvreté, c'est aussi des freins qui sont à la fois non monétaires et qui sont parfois aussi pas liés à l'expérience professionnelle. Ça peut être des situations de santé, ça peut être des situations de mobilité, de problèmes de garde d'enfants, oui, etc., qui empêchent de travailler. Et dans ces cas-là, il faut évidemment que, quels que soient les droits et devoirs, ce soit adapté à la situation de ces personnes, parce que cette pauvreté, elle a plusieurs visages. Effectivement, une partie sont des gens qui pourraient se rapprocher du marché du travail, donc la logique de droits et devoirs peut fonctionner. Une partie, les freins sont vraiment très différents, et dans ces cas-là, il faut appliquer cette logique de droits et devoirs avec discernement. Donc on ne peut pas l'appliquer exactement la même toise absolument à tout le monde. Il faut qu'il y ait un sas d'évaluation des situations individuelles.
C'est votre avis, Anne-Sophie Lassif, parce que là, on a l'expérimentation RSA qui va être généralisée, mais cette logique de droits et devoirs, elle est à peu près dans partout.
Oui, ça, tout le monde.
Et elle est défendue par l'opinion publique.
Tout le monde est d'accord pour le fond là-dessus. Là encore, je rejoins tout à fait. Le problème, c'est encore qui. Et vous citez très bien les pays nordiques, ils mettent beaucoup plus de moyens sur l'accompagnement. Donc, c'est sûr qu'on va dire droits et devoirs, vous avez des problèmes qui sont énormes, et en fait, l'emploi, c'est le dernier des éléments. C'est vrai que dans les pays nordiques, vous êtes accompagné globalement. Si vous avez une addiction, si vous avez un problème de logement, quelqu'un qui a une addiction à un problème de logement, vous pouvez dire tout ce qu'il veut, il faut trouver un emploi demain, il ne pourra pas. Donc, c'est un serpent qui se mord la queue. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. C'est très bien de vouloir faire ça, mais il faut, à ce moment-là, quand on parle souvent des pays du Nord, mettre aussi les mêmes mécanismes d'accompagnement en face. Pas juste dire il y a des droits et des devoirs, et puis de l'autre, laisser la personne, on va dire, sans accompagnement, mais en globalité. Pas seulement sur l'emploi, aussi sur le logement, sur par exemple l'alphabétisation, sur plein d'autres éléments qui font qu'il est éloigné du travail. Et c'est vrai que ça, on le fait moins en France par rapport aux pays nordiques.
Ce serait un exemple à suivre. Ça, c'est ce que disent beaucoup. Je ne sais pas si France Travail aura les moyens et la capacité d'apporter ces évolutions et ces innovations en matière d'accompagnement. Un avis là-dessus, Christian Chavagneux?
Les mécanismes d'accompagnement, ça veut dire du budget en plus. Ça veut dire des points de PIB en plus.
Mais pas que du budget, aussi avoir par exemple des structures qui soient plus globales. Quand vous regardez beaucoup de témoignages, il y a mon logement, c'est une personne, mon problème d'addiction, c'est... Donc il n'y a pas de prise en charge souvent dans la personne, dans sa globalité, de voir l'ensemble de ces difficultés et par rapport à ça, quelle réponse avec toutes les différentes caisses ou les différents organismes on peut avoir. En plus, avec des personnes qui ne sont pas forcément familiers de l'administration, de remplir des dossiers, etc. Donc, ça peut être assez compliqué dans ce magma de s'y retrouver pour beaucoup. Et donc, il y a des découragements et aussi des personnes qui restent durablement hors du système.
Stéphane Carcillo, vous êtes confiant sur le projet France Travail et l'idée qu'on va vraiment progresser dans ce domaine? Parce que moi, j'entends très souvent l'exemple scandinave, nordique, très bien. Mais je sais effectivement que les montants consacrés à l'accompagnement sont absolument colossaux. Après, les droits et les devoirs sont aussi sévèrement sanctionnés quand ils ne sont pas respectés. Mais ça veut dire qu'il faut une structure. Et est-ce qu'on a aujourd'hui ça?
Alors, j'ai pas totalement compris exactement comment ça allait fonctionner concrètement.
Mais France Travail, c'est une sorte de fusion de tout ce qui existe, les missions locales.
Oui, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté, mais cette fusion, c'est pas vraiment une fusion. On essaie de travailler ensemble, mais sans véritablement travailler ensemble. Donc, sans être véritablement ensemble dans les mêmes locaux. Moi, ce que j'ai vu dans les exemples étrangers, c'est que quand ça fonctionnait, c'est que les gens étaient au même endroit.
Au même endroit.
Et là, j'ai l'impression que les gens vont pas être au même endroit. Donc, avec des bases de données séparées. Enfin, il y a des projets pour améliorer les bases de données et la transférabilité. Je vois que c'est sur le...
C'est un des sujets, mais je
ne sais pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il y a besoin d'avoir des moyens supplémentaires, parce qu'en fait, cette activation et ces droits et devoirs, c'est surtout des dépenses par par bénéficiaire des dépenses, soit par chômeur, soit par personne indemnisée au titre du RSA, qui serait plus importante, avec des moyens d'accompagnement plus importants et des moyens de formation qui sont plus importants. Mmh. Un des gros, et c'est difficile parce que le plan d'investissement en compétences, par exemple, qui
le
a été
PIC.
Le PIC qui a été déployé,
sur lequel on fait des économies, hein,
voilà,
mais, dans les 10 milliards d'euros,
mais qui a eu un effet important sur la montée en charge de la formation et sur l'accès à la formation, a raté un certain nombre de ses cibles pour l'instant, qui était d'augmenter non seulement le nombre d'heures de formation parmi les publics fragiles, les jeunes, les moins qualifiés. Ça il a augmenté, mais il a augmenté pour ces publics de la même manière qu'il a augmenté pour les autres publics. Donc le reciblage des aides publiques de formation sur les personnes qui en ont le plus besoin, ça c'est quelque chose qui est très dur à faire. Et qui est-ce qui le fait? C'est le service public de l'emploi. Ouais. Et probablement que si ça ne se fait pas, c'est qu'il y a peut-être des problèmes effectivement de logique de droit et devoir, mais il y a aussi probablement des problèmes de capacité à lever des freins pour accéder à ces formations. C'est parfois des problèmes de mobilité, des problèmes de revenus, etc. Ouais.
On va marquer une pause. On se pose la même question sur l'apprentissage. Est-ce qu'on n'a pas trop ouvert l'apprentissage à tel point que ça coûte 20 milliards d'euros par an? Et il n'est pas impossible que des réflexions dans les économies les 20 milliards qu'on nous prévoit pour 2025 portent, entre autres, sur la question de l'apprentissage. Surveiller et punir les pauvres, c'est la une d'Alternatives économiques du mois de mars. Comment éradiquer la grande pauvreté? Il y a une double page hyper concrète. Je vous en donne les principaux éléments. Christian pourra les commenter avec moi tout de suite.
Est-ce la bonne décision? Oublié quelque chose? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi énergie-climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit BDO France, professeure à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et chroniqueuse pour Forbes tous les mois. Stéphane Carcio, responsable de la division revenu-travail de l'OCDE, membre du Cercle des économistes, partenaire de cette émission chaque jeudi. Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeséconomiques.fr, qui a publié notamment les plus belles histoires de l'escroquerie du collier de la reine à l'affaire Madoff au Seuil. Alors j'ai des auditeurs qui ne sont pas de votre avis, Stéphane Carcio. Ils considèrent qu'ils entendent le catéchisme de Macron, en défendant la réforme de l'assurance chômage. Attal et Gabriel Attal, il tient énormément. Il y a Anthony qui m'écrit: j'ai été chômeur il y a 10 ans. Objectivement, je gagnais plus au chômage que n'importe quel boulot que j'aurais pu prendre à l'époque. J'ai optimisé jusqu'au bout et j'ai cherché tardivement au moment où les droits allaient s'arrêter. Bon, c'est un témoignage, hein, c'est pas plus qu'un témoignage. Comment éradiquer la grande pauvreté? Alors, je résume et je vous laisse réagir. Donc, c'est le revenu minimum, c'est comme ça que je l'ai compris. Vous dites...
C'est la proposition de Guillaume Allègre.
Oui, de Guillaume Allègre, de l'OFCE, absolument. Vous dites, soit on va au minimum vieillesse, c'est un peu en dessous de 1 000 euros, ça coûte 11 milliards 3 par an, soit on va carrément au seuil de pauvreté, c'est 1 160 euros par mois, ça coûte 23,8 milliards d'euros par an. Et moi, j'y vois vraiment le revenu minimum. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'il n'y a plus d'aide de minima sociaux. Il y a un revenu minimum qui est accordé à la population. Vous allez me dire si j'ai bien compris. Deuxième élément, on va plus loin sur les territoires zéro chômeur. Alors effectivement, c'est de l'emploi subventionné, mais on le concentre sur les 295 000 chômeurs de longue durée, ce qui fait 3 milliards 2, soit 11 000 euros nets par emploi. Et puis, on met 10 milliards d'euros supplémentaires dans l'ensemble du dispositif en faveur du logement, logement social, APL, rénovation énergétique, mobilisation du foncier. Ça fait donc, si on prend la totalité, 37 milliards par an et la grande pauvreté est éradiquée. C'est ce que vous écrivez. C'est à l'avantage d'être hyper concret. Et puis, de poser la question du revenu minimum.
D'abord la photo, on est à 14,5% de la population française qui est sous le seuil de pauvreté, record depuis 25 ans. On n'a jamais été aussi haut.
On était plutôt à 13, traditionnellement.
14,5%, et ce sont les dernières stats INSEE, c'est-à-dire celles de 2021. Et on sait que 2022-2023, qui sont des périodes de forte inflation, beaucoup d'études sont sorties qui nous disent que les plus bas déciles subissent plus la hausse de l'inflation. Donc ce sera sûrement plus haut en 2022 et sûrement plus haut en 2023. Est-ce qu'on peut se contenter de cette situation? Non seulement le nombre de pauvres augmente, mais on mesure aussi en France l'intensité de la pauvreté.
Est-ce que vous mettez dans l'intensité de la pauvreté?
Est-ce que vous en sortez quand même un peu, ou est-ce que votre dégradation de logement, de machin, dans votre vie de tous les jours, est-ce que ça se dégrade en plus quand vous êtes pauvre ou pas? Et oui, l'intensité, l'indicateur d'intensité de la pauvreté augmente. Donc on est vraiment dans une situation situation extrêmement difficile pour ce qui est des pauvres et de la grande pauvreté. Donc ça c'est le constat. Après, on met sur la table des calculs arithmétiques tout bêtes. Si vous l'êtes à 50% du revenu médian, ça coûte 10-12 milliards. Si vous l'êtes à 60% du revenu médian, quel seuil de pauvreté officiel, ça coûte, vous l'avez dit Nicolas, à peu près 22-25 milliards. 23, voilà, à peu près 25 milliards. Si vous voulez en plus, aider pour le logement, si vous voulez en plus, vous pouvez monter jusqu'à 37. Mais bon, restons à 25 milliards pour simplement mettre les gens au niveau du seuil de pauvreté. 25 milliards, vous faites ça sur 5 ans, c'est 5 milliards par an. Bon, voilà, est-ce qu'on a les moyens de trouver ça au moment où la Cour des comptes nous dit avant-hier dans son rapport sur l'état des finances publiques enfin on arrête les baisses d'impôts dans ce pays, voire même 2024 il y aura peut-être une petite hausse des impôts, contrairement à ce que dit le gouvernement, 3 milliards et demi, est-ce qu'on a les moyens de mettre cet argent sur la table? Vous l'avez dit, Bruno Le Maire cherche 10 milliards pour cette année, cherche 20 milliards pour l'an prochain. Moi, si vous voulez, j'ai une proposition à vous faire pour donner 55 à 60 milliards au gouvernement demain matin. Je pense que 5 milliards par an sur horizon de 5 ans. Après, oui, bien sûr, en régime de croisière.
Faire rentrer 55 milliards.
Ouais, je vais faire rentrer 55 à 60 milliards par an sur un projet de loi qui se met en deux lignes.
C'est-à-dire, bah, allez-y.
Bon, c'est-à-dire, on sait que l'ensemble de la richesse du patrimoine détenu en France est 7 fois le PIB à peu près. On sait que les 1% les plus riches en ont un quart. Vous mettez une taxe de 2%, une taxe progressive.
Sur le 1%.
Sur la richesse. Et une taxe progressive, c'est-à-dire qu'au moment où ça dépasse les 1% les plus riches.
Oui, avec un effet marginal.
Avec un effet marginal. Et là, vous comptez 10-15% de gens qui vont essayer d'échapper à ça, ils vont faire de l'évasion ou de la fraude fiscale. Et vous tombez à peu près sur 55 à 60 milliards. Et
le patrimoine. C'est une recette annuelle, ça, selon vous?
Oui, tout à fait. Le patrimoine des 1% les plus riches, c'est 5 000 milliards d'euros en France aujourd'hui. Donc, une fois que vous leur avez piqué les 60 milliards, il leur reste 4 840 milliards de patrimoine.
Est-ce exceptionnel ou pérenne?
Parce qu'il faut payer tous les ans.
Il faut payer tous les ans, évidemment. Donc
sauf que vous le ferez une fois.
Allez, terminé.
C'est pérenne.
Bon,
c'est pérenne.
Ok. Et donc, le seuil de pauvreté. Donc plus pérenne. C'est le revenu minimum. On est d'accord.
Ce que propose Guillaume Allègre, c'est pas un revenu universel parce qu'il dit il y a des demandes de contrepartie et de son point de vue, c'est justifié.
Oui, il le dit.
C'est justifié. Ça une sorte de revenu minimum d'insertion. Qui permet vraiment aux gens de retourner dans une vie décente.
Alors. Réaction, Stéphane Garcillo.
J'ai pas lu.
Non, mais bon.
J'ai pas lu le rapport. Donc
C'est une interview de Guillaume Allègre de l'OFCE dans les colonnes que j'ai lues intégralement et c'est ça l'idée, quoi.
Moi, ce qui me semble vraiment important, c'est oui, effectivement, si on veut lutter contre la pauvreté, on peut augmenter le niveau des prestations. Aucun pays de l'OCDE n'a des prestations sociales qui vont jusqu'au seuil de pauvreté. Pourquoi ? Essentiellement parce que même si on le sait, certaines personnes ont des grandes difficultés à retourner en emploi, on veut conserver une incitation forte au travail par rapport à l'inactivité.
Et là, l'incitation à l'inactivité serait trop grande.
Ah bah 1200 avec les autres aides qui peuvent se cumuler, notamment les aides locales, les aides au logement, etc. Alors, je ne sais pas si le calcul est fait avec net de toutes les aides, mais notamment il y a beaucoup d'aides locales. On peut très facilement.
J'ai compris que ce serait que ça remplaçait tous les autres minima. Hein,
voilà. Presque. Oui, alors le problème c'est que d'abord si vous remplacez.
C'est vraiment quand même l'idée du revenu.
Alors
il y a négatif.
Il y a plusieurs problèmes. D'abord, un, il y a des aides locales qui sont pas prises en compte, donc ce qui va vous emmener assez loin. D'autre part, il y a beaucoup. Quand on supprime toutes les autres aides, ça fait en fait potentiellement beaucoup de perdants. Parce que il se trouve que le système de prestations sociales en France, comme dans beaucoup de pays, a créé beaucoup de différenciation selon les situations individuelles. Donc, par exemple, les personnes qui sont en situation de handicap, qui ne peuvent vraiment pas travailler, elles sont déjà à 1000 euros ou un peu plus en prestation parce que de toute façon c'est pas une question d'incitation.
C'est l'allocation adulte handicapé.
Voilà.
Elle d'ailleurs a suivi la progression normale des indexations.
Et ces gens ne peuvent pas travailler donc de toute façon il n'y a pas un problème d'incitation, il faut les sortir de la pauvreté. En revanche, pour les autres, c'est extrêmement modulé selon la situation familiale. Donc quand on se dit on supprime tout et on donne 1000 euros à tout le monde, en fait il y a des gens qui vont perdre potentiellement lorsqu'on fait cet exercice-là. Donc il faut être extrêmement vigilant avec ce ce type de dispositif, on peut créer des situations, notamment pour les familles monoparentales, qui sont extrêmement, extrêmement difficiles. Donc, premier frein, effectivement, le fait de supprimer. Deuxième frein, qu'est-ce qu'on fait de l'incitation au retour à l'emploi, sachant qu'il faut quand même garder un gap.
C'est la principale critique.
Hein, il faut garder un gap, voilà. Et troisième critique, c'est que une des grandes situations de pauvreté vient du fait qu'on ne parvienne pas à travailler suffisamment d'heures. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont en situation de pauvreté, mais qui travaillent et qui travaillent malheureusement pas assez d'heures
pour sortir de la pauvreté. Gilbert Sept, hein. C'est voilà. La thèse de Gilbert Sept. C'est que le principal moteur, c'est l'absence de quantité de travail suffisante.
Voilà. Et donc, en France, comme dans beaucoup de pays, c'est ce problème de quantité de travail. Et donc, c'est peut-être là-dessus qu'il faut investir fortement. Comment est-ce qu'on fait accéder ces personnes à des quantités de travail plus importantes? Et là, il y a à la fois des questions de compétences, des questions de frein de la mobilité, des questions peut-être d'aide à l'embauche. Enfin, il y a tout un volet à voir pour lutter contre la pauvreté. Mmh. Cela étant, la France actuellement fait, entre guillemets, plutôt bien avec son système de prestations sociales. Quand on compare avec des pays nordiques, vu ce qu'on dépense, on réduit fortement la pauvreté monétaire,
bah, la redistribution
générée spontanément
monétaire.
Par le marché. La France fait coupe fortement la pauvreté grâce à son système actuellement.
Monétaire.
Mais donc, le système fonctionne effectivement pas si mal. Après, qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin dans la lutte contre la pauvreté? Voilà, les éléments du débat, à mon avis, sont ceux-là.
Anne-Sophie, par rapport à ce que disait Christian, la réaction de Stéphane Carcillo. Moi, toutes ces histoires de revenus minimum, d'impôts négatifs sont des histoires qui m'intéressent. Mais je ne sais pas comment vous voyez.
Non, moi, je trouve que c'est intéressant, mais moi, c'est vrai que je serais plus focalisée sur qui tombe encore une fois dans la pauvreté. Parce que c'est vrai qu'on dit les chômeurs, c'est toujours très générique. Ce qui est assez intéressant, c'est de regarder d'une manière...
Famille monoparentale, les femmes seules plus, qui travaillent peu d'heures, effectivement, dans le mois.
Et là encore, c'est pour ça que je nuancerais, à mon sens, on peut créer toutes les incitations du monde, mais le problème, vous touchez des populations, c'est pas le problème d'incitation. Combien de femmes qui sont en temps partiel qui vous disent, moi, je voudrais avoir plus d'heures. Donc, elles veulent, elles demandent, etc., mais elles n'en ont pas. Donc, c'est pas une question d'incitation.
Et donc, l'idée d'atteindre le seuil de pauvreté avec les aides sociales.
Me choque un peu dans cette augmentation de la pauvreté, il faut le dire, il y a quand même une augmentation, donc voilà, c'est quand même un fait. C'est vraiment deux catégories, donc désolé, je reviens toujours à mes jeunes, hein. C'est vrai qu'on n'en parle pas politiquement parce que, non, là sera autre chose, mais on n'en parle pas parce qu'ils votent moins, donc on a toujours tendance à en parler moins, mais c'est quand même eux qui sont beaucoup plus tombés dans la pauvreté depuis le Covid, notamment avec les prix de l'énergie et l'alimentaire.
Le logement.
Et le logement. Et quand vous avez une jeunesse qui se retrouve vraiment paupérisée, c'est quand même très compliqué avec toutes les questions.
Et donc par rapport à la proposition qui est évoquée dans les colonnes d'Alter Echo.
Par exemple, pour cette catégorie-là, ça pourrait être bien d'avoir cette discussion et cette réflexion pour un temps qui pourrait être, par exemple, limité, hein, si la personne est en formation ou avoir des aides. Moi, je parlerais plus d'aide anti-pauvreté, c'est-à-dire de dire, on voit que les jeunes ont été beaucoup plus impactés par le prix de l'énergie, le coût du logement, l'inflation alimentaire. Peut-être qu'il peut y avoir une aide spécifique et ponctuelle pour justement tuer ce gap. Et
on a eu le débat sur le RSA en dessous de 25 ans.
En effet, quand la personne après trouve un emploi, etc., sort, vous arrêtez l'aide. Donc ça peut être une idée. Et puis l'autre élément et d'autres catégories qu'on voit moins que aussi sous les radars, vous l'avez dit, c'est vraiment dans la classe moyenne, les premiers déciles. Donc ce sont vraiment les personnes qui ont vraiment depuis 10 ans subi l'explosion des prix de l'immobilier.
Qui travaillent et qui ont
cette paupération à cause de ça, mais qui, malgré l'augmentation des prix de l'immobilier, bénéficiaient du fait que l'alimentaire, l'énergie, ça coûte rien. Et donc, dans leur pouvoir d'achat, s'en sortaient encore, puisqu'on l'avait beaucoup pour l'immobilier et pour le logement, mais pour le reste, comme les autres postes étaient plutôt faibles, on arrivait à dégager encore des loisirs.
Et c'est la France de l'angle mort d'Emmanuel Macron.
Exactement. Voilà, et là, cette catégorie, en effet, a toujours le coût du logement, et en plus, maintenant, elle a l'alimentaire, l'énergie. Donc, on ne veut pas dire, et ils ne vont peut-être pas dans les classes de pauvreté, de vraiment passer sous le seuil, mais il y a vraiment un sentiment d'augmentation d'inégalité, de paupérisation, du revenu disponible au logement, au loisir, à la culture qui baisse pour payer des dépenses contraintes, et ça, on les voit moins. Par contre, c'est vraiment un sentiment d'augmentation des inégalités et de la paupérisation. Et là, c'est compliqué parce qu'on le sait en France, c'est souvent les gens qui consomment le plus. On a un modèle de croissance qui est basé sur la consommation intérieure. Donc, je dirais que c'est la richesse du pays. Si ces personnes consomment plus et sont plus intégrées socialement et économiquement dans l'économie, ça a un impact sur la croissance et ça a un impact sur la richesse créée. Et ça, c'est vrai qu'ils sont moins dans les radars. Et à mon sens, il y a quand même un impact économique qui est non négligeable.
Et quel que soit le dispositif institutionnel retenu, C'est pas un gros budget. Nous, c'est ça surtout qui nous a surpris. Quand on pensait pas faire ce papier dur, tiens, on s'est dit à un moment donné, et si vraiment on voulait mettre du budget sur la table, il faudrait aller chercher combien. C'est pas si énorme que ça. Nous, c'est ça surtout qui nous a interpellés.
Par rapport aux aides énergie, par exemple.
Vous disiez tout à l'heure que vous vous attendiez à des hausses d'impôts en 2025.
La Cour des comptes a fait le bilan 23-24. Donc, pourquoi est-ce qu'on a moins de recettes fiscales en 23? Élasticité de 0,6. Alors, d'habitude, on a une élasticité à 1 des recettes fiscales au PIB, 0,6 l'année dernière. On voit que ça touche à peu près tout, entreprises, TVA, enfin ça touche
surtout l'IS.
Surtout l'IS, mais
4 milliards 4 d'IS manquant à l'appel.
Mais pas que l'IS. Oui. Et la Cour des comptes dit, c'est l'arrêt de la baisse des impôts, quasi arrêt en 2024, voire même il va y avoir une petite hausse sur des taux d'assises sur le gaz. Ça va plutôt augmenter. Et Pierre Moscovici, chez nos confrères Les Échos, a dit le circuler, il y a rien à voir sur les hausses d'impôts du gouvernement. Ouais. Moi, je suis pas pour. Donc enfin, on va arrêter de creuser le déficit parce qu'il y a quand même un peu de schizophrénie chez ce gouvernement qui court après 10 milliards quand ça fait un mandat et demi qu'ils nous ont plombé 60 à 70 milliards de recettes fiscales.
Pierre Moscovici qui dit que c'est l'homme du ras-le-bol fiscal en 2013.
Oui,
il dit dans Les Échos.
Il dit bien.
On peut pas avoir de tabou sur la fiscalité. Et c'est, alors lui, il parle d'un impôt qui serait temporaire et exceptionnel.
Oui, oui, bien sûr, une sorte d'ISF vert à la Mafousse. Mais le rapport de la Cour des comptes nous dit si on veut vraiment tenir le programme de stabilité à l'horizon 2027.
Sur la fiscalité, on n'y arrive pas.
On peut réduire, mais c'est 50 milliards d'ici 2027 de réduction des dépenses publiques. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Donc à un moment donné, on se dit il va falloir dépenser de l'argent pour la dépendance, pour la transition numérique, pour l'éducation, pour l'hôpital. On sait très bien.
Sais pas comment on
le
fait.
Constat économique, c'est de dire que dans les années qui viennent, il va falloir plus de dépenses publiques. Alors, on est content, pas content, mais le constat économique va en falloir plus. Si à un moment donné, on n'augmente pas les impôts, et pourquoi ? Il ne faut pas les augmenter sur tout le monde, il faut les augmenter sur la partie des gens qui payent relativement moins d'impôts.
C'est le 1% dont vous parliez.
Et c'est pas facile. Je suis en train de faire un dossier là-dessus pour le prochain numéro d'Alter Eco, savoir combien payent vraiment. Quel est le taux d'imposition des 0,1% les plus riches? C'est loin d'être évident. Alors nous, en France, on a l'IPP, on a Piketty, tout ça, mais vous voulez faire un tour européen, il y a très peu d'études. Et sur le peu d'études qu'on a, il y en a 5-6, et sur les très peu d'études qu'on a, on s'aperçoit que c'est très régressif. C'est-à-dire quand vous arrivez sur le 1%, sur le 0,05, sur le 0,1, les gens payent moins d'impôts. Donc il y a une partie des contribuables en Europe qui sont relativement sous-taxés, et franchement, les taxer à 2%, alors on a fait le petit calcul en France, ça va pas les spolier. Hein. On va passer de 5 000 milliards de fortune à 4 840 milliards de fortune. Franchement, c'est pas spoliateur. Et ça rapporte 55 milliards.
Vous me dites
milliards. C'est énorme.
Ah, 55 milliards de recettes. Évidemment. Oui, c'est une année d'hier, aujourd'hui, ça doit être dans les 90-85 milliards d'euros. Donc si on rajoute 55 d'un coup.
Et c'est pas spoliateur, franchement.
Ça vous fait réagir l'idée d'une taxation sur le 1% des plus gros patrimoines. Patrimoine, vous m'avez
patrimoine,
dit.
Patrimoine, patrimoine.
Non, mais moi, ce qui me gêne avec ces.
Ah, je le disais aussi.
Il a le droit de pas être forcément hyper emballé à l'idée.
C'est surtout de.
Surprise, en fait.
C'est surtout l'absence.
J'ai envie de dire des deux côtés, Christian.
Oui, bien sûr. C'est surtout l'absence de prise en compte des comportements.
C'est 10 à 15% de fraude et d'évasion fiscale.
Oui, mais non, mais le sujet, c'est simplement que si vous taxez le patrimoine une fois, la deuxième année, le patrimoine, il est en partie mobile. Le capital, il est en partie. Surtout le capital, il est particulièrement mobile.
Le capital, c'est mobile.
Et donc, le principal sujet, c'est que quand vous taxez effectivement le capital, vous pouvez tout simplement, l'année suivante, avoir des recettes qui sont plus faibles et l'année suivante, encore des recettes qui sont plus faibles. Donc, je suis pas sûr que cette source soit extrêmement pérenne.
Pardon, mais. Jusqu'en 2014,
les personnes s'ajustent.
Jusqu'en 2014, j'aurais dit, vous avez entièrement raison. Depuis 2014, il y a une chose qui a été mise en place au niveau mondial. Donc, on peut pas aller à côté, parce qu'à côté, c'est pareil que chez nous. C'est l'échange automatique d'informations fiscales. Ça veut dire que vous êtes un Français, vous allez mettre une partie de votre patrimoine en Suisse, aux îles Caïmans, à Singapour. Hein, le fisc français est automatiquement sans rien demander, informé.
Et c'est pas la peine d'aller aux îles Caïmans. Si vous avez créé une taxe de 2% sur le patrimoine, vous pouvez aller dans un autre pays européen dans lequel il n'y a pas de taxe sur le patrimoine. Donc, on parle pas des paradis fiscaux. Là.
Mais il faudra le déclarer. Mais il faudra le déclarer.
Ah oui, mais vous êtes libre de bouger votre.
Vous le bougez, mais que vous déclarez vos revenus du patrimoine et que c'est taxé, moi ça me va aussi. Hein.
Oui, mais le problème c'est que votre taxe, elle aura plus le même rendement. au fur et à mesure. Moi, ce qui me pose problème, c'est toujours de penser que les comportements vont pas s'ajuster.
Si
vous taxez, les comportements vont s'ajuster. Donc, la pérennité d'une taxe sur le capital. La première année, vous allez taxer, ça va rapporter. La deuxième année, ça rapportera moins. 10 ans plus tard, vous risquez d'avoir des effets assez importants sur l'investissement.
Si j'ai 55 milliards fois 10 ans, ça va.
Mais vous imaginez que ce serait une taxe à l'américaine extraterritoriale? Christian Chavagneux,
alors qu'en fait, si moi je décide, c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose.
Parce que voilà,
aujourd'hui,
là où Stéphane et ce qu'il dit est audible, si j'ai, je sais pas, allez, 2 milliards de patrimoine et que du coup, j'en fais sortir 1 milliard que je vais investir dans un autre pays de manière tout à fait légale et déclarée.
2% sur votre milliard, pourquoi vous allez vous embêter à donner des commissions à des gens qui vont vous arnaquer pour flanquer votre argent ailleurs? Parce que les commissions qui sont prises par les gens qui font de l'opacité financière, c'est énorme. Les riches se font spolier quand ils font ça.
Et c'est pas forcément opaque, hein.
Vous pouvez si vous mettez tout à l'étranger, mais vous déclarez tout en France, moi c'est pas de souci. Du moment que c'est taxé, ça va.
Vous mettez une partie à l'étranger, non, vous déclarez en France.
Vous soulevez un point important, Nicolas, qui est l'exit tax aux États-Unis.
Oui, ça on l'a fait. Avec
aux États-Unis, vous naissez. Aux États-Unis, oui. Vous passez toute votre vie à l'étranger, vous devez payer des impôts aux États-Unis. Chez nous, vous accumulez votre fortune en France pendant 50 ans, vous partez et vous payez plus rien. Il faudrait peut-être trouver un entre-deux qui fait que, je sais pas, pendant 5 ans ou 10 ans, vous continuez à payer des impôts en France.
C'est un
vrai problème.
Cette histoire est extraordinaire. Il y a des gens qui se retrouvent rattrapés par le fisc américain, par un malheureux hasard, qui se battent pendant des années pour aider de se faire.
Donc c'est peut-être trop aux États-Unis, c'est peut-être pas assez chez nous. Il faudrait peut-être trouver une voie médiane.
Bon. Après, pour compléter, je pense que ce qui l'explique, c'est que ça peut être une bonne idée, en effet, une fois, deux fois, comme on y a eu, quand il y a en effet la transmission des données. On a vu, on avait un an pour aller à Bercy.
Et la cellule de dégrisement, ça. C'est Obama qui a provoqué ça, avec une loi au Congrès.
Et on a vu qu'il y a un rendement important pendant 1, 2, 3 ans, et puis beaucoup moins après. Donc là, je pense c'est de se dire que ça peut être bien pendant 2-3 ans, mais si après, de l'autre côté, on a une allocation qui est pérenne, est-ce que la source de revenus le sera pareil dans le temps?
Je pense qu'effectivement, il y aura un phénomène dégressif. Vous avez vu que Bruno Le Maire a porté l'idée d'une taxe
impôt minimum mondial sur les plus riches.
Sur les 0,0002, je crois, de la population, 2%.
Ça, c'est l'IPP, ça.
C'est ce qu'il avait dit au G20, à Sao Paulo. Et là, Biden a dit qu'il fallait faire 25% minimum sur les milliardaires aux États-Unis. Il est en campagne, Joe Biden. Je ne suis pas du tout sûr que ça verra le jour. Bon, en fait, ce serait l'effet ISF, ce que vous me décrivez, Stéphane Carcio, finalement.
Oui, en partie.
Non, alors l'effet l'ISF, il était très mal conçu, c'est pour ça qu'il rapportait pas beaucoup d'argent.
Ça faut reconnaître que à la fin, il a fini par rapporter un peu. Mais pendant pas mal d'années, il coûtait plus cher à percevoir que ce qu'il ne rapportait.
Les dernières estimations pour le manque à gagner avec la mise en place du PFU, c'est 5 milliards par an.
PFU, c'est
le prélèvement forfaitaire unique, le fait d'avoir baissé à 30% la taxation des revenus du capital. Là, ça nous coûte à peu près 5 milliards quand le gouvernement en cherche 10.
Mais moi, je continue à dire, Christian Chavagneux, qu'il était normal de mettre notre fiscalité sur le capital à des niveaux comparables avec les autres pays.
Vous évaluez ce que ça coûte, mais c'est difficile aussi d'évaluer ce que ça a pu rapporter, puisque vous savez que dans le rendement capital, vous avez moins d'indicateurs qui sont aussi performants que de dire juste la perte fiscale.
Le contrefactuel,
en tout cas, il y a moins de recettes fiscales.
Ça, c'est sûr. Mais bon, de valeur ajoutée et que ça finance l'économie réelle, c'est bien aussi.
C'est vrai que l'argument est juste sur le plan théorique, mais France Stratégie a fait le calcul et a essayé d'évaluer. Est-ce que les gens qui, du coup, reçoivent plus de dividendes, parce qu'il y a moins de taxes sur les dividendes, qu'est-ce qu'ils en font? Est-ce qu'ils investissent dans leur propre entreprise? France Stratégie nous dit non. Est-ce qu'ils investissent dans les autres entreprises pour le développer? France Stratégie nous dit non. Qu'est-ce que ça a fait? 98% des dividendes qui sont distribués dans ce pays vont vers 1% des contribuables. Le bilan de France Stratégie, c'est dire, un, ça a augmenté les inégalités, deux, ça n'a pas eu d'effet sur l'économie. France Stratégie.
J'ai vu ce rapport. J'ai vu. C'est très, très difficile de cibler où vont les euros qu'on libère d'un côté pour savoir où est-ce qu'ils vont atterrir. Je regarde la manière dont sont gérés les grands fonds qui, finalement, sont les principaux bénéficiaires des dividendes. Tout est réinvesti d'une manière ou d'une autre, de toute façon. On a 5 minutes. Le barème Macron, les indemnités 2017, c'était l'une des... C'était de...
Les ordonnances.
C'était Pénicaud. Ordonnance Pénicaud.
Macron, puisque c'est présidentiel.
Mais à l'époque, c'était la queue de comète de la loi El Khomri qui était portée par Muriel Pénicaud. Et on avait cette fameuse idée qu'il fallait lever la peur d'embaucher chez les chefs d'entreprise. Le message était « je n'embauche pas parce que je ne peux pas débaucher ». Et donc on met en place un plafond lors des passages devant les prud'hommes en cas d'indemnité, enfin de licenciement, sans cause réelle et sérieuse. Vous avez fait le bilan quelques années après. Et ça donne quoi, Stéphane Carcillo ? C'était une grande mesure, normalement.
Alors, c'était une mesure qui visait à la fois, je pense, sécuriser, c'est-à-dire réduire l'incertitude sur les montants alloués en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et puis aussi possiblement baisser un peu le montant parce que il y avait des montants qui étaient très très élevés pour certains cas de licenciement et donc il y avait un plancher niveau minimum d'indemnisation et un plafond.
Je m'étais fait le tableau à l'époque, je l'ai plus sous les yeux là, mais
l'idée c'était de mettre en place quelque chose qui existe dans beaucoup de pays européens. Dans une majorité de pays européens, c'est-à-dire en fait un encadrement de cette indemnisation en cas de licenciement injustifié en quelque sorte.
C'est ça.
Alors on est allé regarder énormément d'arrêts, alors pas au prud'homme.
259 000 arrêts de cour d'appel. Hein.
De cour d'appel, donc on est allé en cour d'appel parce que les arrêts de prud'homme sont pas facilement accessibles, donc on est allé aussi au niveau de l'appel. Et le barème s'applique aussi aux décisions des cours d'appel. Et donc ce qu'on a vu, c'est que, en fait, le barème sur les indemnités allouées par le juge sans cause réelle et sérieuse fonctionnait. C'est-à-dire qu'il réduit le montant moyen de l'indemnité.
Alors que le juge respecte la loi, en fait.
Il y a eu beaucoup de débats avec les cours d'appel qui résistaient, etc. Mais globalement, quand on regarde tous les arrêts dont on dispose aujourd'hui, ça a fonctionné. Les juges l'ont quand même appliqué. Dans leur très grande majorité, l'incertitude sur le montant a été réduit. Et donc, de ce point de vue, les ordonnances ont réussi, ont rempli leur objectif. Le problème, c'est les effets de bord. Et c'est qu'en fait, les comportements s'ajustent. Alors, ce qui se passe, c'est d'abord...
Vous allez assez vite, hein, Chris, parce qu'on a 2 minutes.
Okay. Les avocats et les salariés sont allés chercher d'autres types d'indemnités, des retards de salaire, des heures supplémentaires pas payées, etc. Donc, ces demandes ont monté, et les juges ont eu tendance à aussi, puisqu'ils étaient demandés, à, une fois qu'ils l'avaient vérifié, à les accorder. Donc, ça fait monter le montant des autres indemnités qui peuvent être versées en plus de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse.
On a plafonné d'un côté, on l'a compensé par des indemnités qui ont augmenté de l'autre côté.
Et d'autre part, les salariés et leurs avocats ont beaucoup cherché, beaucoup plus souvent, l'annulité. Alors l'annulité, c'est un...
À faire annuler le licenciement.
Faire annuler le licenciement. Alors le licenciement annulé, le barème s'applique plus du tout. Ça a été validé par la Cour de cassation et donc le licenciement peut être annulé, c'est-à-dire qu'il est réputé ne pas avoir eu lieu lorsqu'il y a des situations de harcèlement, de discrimination, de licenciement de salariés protégés, etc.
Ouais, bon. Il y avait ça comme
élément. Et donc, du coup, alors, ces demandes ont augmenté et les juges ont aussi accordé un peu plus souvent l'annulité dans ce qu'on voit. Alors, ça reste très faible, hein, on reste à des niveaux de 3-4% de licenciement nul, donc c'est tout petit. Mais comme on passe du simple au double en proportion et que les montants alloués en cas de nullité sont beaucoup plus important parce que le contrat de travail est réputé ne pas avoir été rompu et donc on peut demander le versement des salaires depuis la date du licenciement, donc on voit que ça peut être très important. Donc là, effectivement, ces effets-là annulent, quand on prend l'ensemble des indemnités versées dans leur ensemble, ça annule l'effet du barème sur l'indemnité spécifique de licenciement sans cause réelle.
Quand on rentre dans le détail, c'est assez décevant, en fait, ce bilan que vous dressez.
Ça vous paraît aller dans le bon sens ou pas?
Il faut vraiment conclure.
Ça nous paraît aller dans le bon sens ou pas, cette compensation?
Moi, je pense que l'élément qui était vraiment très important, c'était de sécuriser la décision de licenciement du point de vue de l'employeur pour qu'il y ait un coût qui soit prévisible. Et pour le salarié, l'idée, c'était aussi, dans le cadre d'un licenciement, d'éviter d'attendre 2 ans ou 4 ans avec des procédures très longues et très angoissantes. Alors, ce qu'on ne sait pas encore, mais ce qu'on va continuer à regarder, c'est dans quelle mesure ce barème a quand même changé les cas qui vont au contentieux. Est-ce que ça a permis plus de transactions en amont? Est-ce que ça a contribué à la baisse des cas qui vont au prud'homme? Parce qu'on voit une très forte baisse des cas qui vont au prud'homme. Ça, on pourra le dire plus tard. Dans les montants aujourd'hui alloués, on voit un comportement de réaction, effectivement, avec d'autres indemnités qui augmentent et la nullité qui augmente. Est-ce que ce comportement de réaction est temporaire ou pérenne? On ne sait pas encore. Voilà, donc c'est des questions qu'il va falloir continuer à approfondir. On va continuer à travailler sur ce sujet pour voir si ça a changé les choses en amont.
On n'a pas le temps de débattre. Non, mais c'est un sujet...
Juste pour finir, ce qui est intéressant, c'est de voir la période où ça a été mis en œuvre aujourd'hui, où les chefs d'entreprise se battent pour recruter. Donc c'est vrai que c'est assez...
J'aurais bien voulu qu'on puisse parler de ça également, du télétravail, l'acquis des cadres.
Surveiller et punir les pauvres, c'est la une d'Alternatives économiques du mois de mars. Merci Christian Chavagneux, merci Stéphane Carcillo et Anne-Sophie Elsif. Rendez-vous demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.